Mais malheureusement, en France, l'État continue d'assassiner. Et il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Erickson.
Et à tous, vous êtes bien sur Radio Canu pour Comment faut-il que je vous le dise ? Une émission radio poétique, absurde et ridicule, de non-sens, de oui-dire, et qui est fait entre copains. C'est pour ça qu'on accueille Sirius et Étienne ce soir.
Salut, salut !
Ils prendront la parole ou pas, s'ils veulent.
Bonjour.
Julie est dans le bus, Anita voyage et Greg travaille. Voilà, voilà. Donc on enchaîne tout de suite. C'est parti.
Aux temps anciens, les mythes étaient ces histoires qu'on utilisait pour se raconter. Mais comment expliquer cette façon de nous haïr ? Comment expliquer ce que nous avons fait de nous ? La façon dont... En deux, nous nous brisons, la façon dont nous compliquons ce nous. Nous sommes pourtant toujours mythiques, coincés pour toujours entre le pitoyable et l'héroïque. Nous sommes encore divins. C'est ce qui nous rend si monstrueux. Mais c'est comme si nous avions oublié que notre propre valeur excédait de loin celle de l'ensemble de nos biens. Les cieux vides s'élèvent par-dessus les bancs où sont assis les anciens. Ils sont mornes et sans amis. Et les jeunes mâles crachent, délicats dedans, mais en surface imprudents, et je présume que ce sont eux nos héros, ce sont eux nos légendes. Ce visage dans la rue que tu croises sans le regarder, ou ce visage dans la rue qui te croise sans se retourner, ou l'homme au supermarché tentant de garder ses enfants hors du caddie, ou la femme près de la boîte aux lettres qui se débat avec son parapluie, chaque individu brûle d'une tâche à accomplir. Regarde-les encore et permets-toi de les voir. Des millions de personnages, chacun avec ses propres récits épiques chantant « Il est difficile d'être un ange, tant que tu n'as pas été un démon. » Le ciel est parfait, on dirait un tableau, mais l'air tellement épais qu'on se sent défaillir. Néanmoins, les mythes dans cette ville racontent depuis toujours la même histoire, racontent qu'il nous faut juste appartenir à quelque part, qu'il nous faut juste savoir distinguer le bien du mal et qu'il nous faut juste lutter pour trouver par nous-mêmes notre camp. Nous avons tous besoin d'aimer, d'être aimés et de ne pas lâcher. Il n'y a peut-être pas de monstre à tuer, ni plus aucune dent de dragon à semer, mais ce qui reste, c'est l'écoulement de la pluie le long des gouttières. Ce qui reste, ce sont les murmures des cinglés. Ce que nous avons ici est une toute nouvelle palette de mythes. La parabole de ton pote qui aurait pu tout faire mais qui a fini junkie. Ou la parabole du père prodigue revenu après tant d'années d'errance. Notre morale s'apprend toujours par l'expérience, acquise dans ces villes, dans toute leur rage et leur ennui. Oui, nos couleurs sont passées et grises, mais nos batailles se jouent malgré tout. Et nous sommes toujours mythiques. Appelez-nous par nos noms. Nous sommes parfaits de nos imperfections. Nous devons garder espoir. Nous devons rester patients. Car lorsqu'ils déterreront le jour présent, ils nous trouveront, nous, les nouveaux anciens. Tu vois, tout ce que nous avons ici, c'est tout ce que nous avons toujours eu. Nous avons la jalousie et la tendresse, les malédictions et les dons. Mais la détresse d'un peuple qui a oublié ses mythes et imagine que d'une manière ou d'une autre, il n'y a que maintenant, triste affliction. Faites d'inquiétude et d'isolement. Mais la vie dans tes veines est divine, héroïque. Tu es né pour être grand. Tu dois le croire, le savoir, le puiser dans les larmes des poètes. Il y a toujours eu des héros et toujours des méchants. Les enjeux peuvent avoir changé, mais rien n'est si différent. Il y a toujours eu de l'avidité, du chagrin et de l'ambition, du courage, de l'amour, du péché, de la contrition. Nous restons ces mêmes êtres des commencements, vivant toujours dans notre fureur, dans notre crasse et nos frictions, des odyssées quotidiennes, des rêves, des décisions. Les histoires sont là si tu y prêtes attention. Les histoires sont ici. Les histoires sont toi, et ta peur, et ton espoir est ancien. Comme les signaux de fumée, le langage du sang, le langage de l'amour languissant. Les dieux sont tous là, car les dieux sont en nous. Les dieux sont au PMU, les dieux sont au café, les dieux font des pauses clopes là derrière. Les dieux sont au bureau, les dieux sont à leur bureau, les dieux n'en peuvent plus de toujours donner plus pour moins. Les dieux sont en rave, à deux cachets de profondeur dans la danse. Les dieux sont dans l'allée en train de rire. Les dieux sont chez le médecin, ils ont besoin d'un petit truc contre le stress. Les dieux baisent aux chiottes sans capote. Les dieux sont au supermarché, les dieux rentrent chez eux à pied. Les dieux ne peuvent pas s'empêcher de zoner sur Facebook. Les dieux sont dans un embouteillage, les dieux sont dans le train. Les dieux regardent la pub, ils ne sont pas coupables, ils travaillent pour la mairie. Puis les voilà au chômage. La paye des dieux finit en alcool pissé au fond des WC. Les dieux sont dans leur jardin avec leurs terrasses et leurs plantes. Les dieux sont en classe. Les pauvres, ils n'ont aucune chance. Ils essayent de dire la vérité, mais la vérité est dure à dire. Les dieux sont nés. Ils vivent dans un temps. Ils vivent un temps et puis ils vont mourir. Ils se perdent dans les foules. Leurs entrailles sont pleines de pourriture. Ils espèrent que la vie est plus que cela, mais ne parviennent pas à imaginer quoi. Ces dieux n'ont pas d'oracle pour traduire leurs requêtes. Ces dieux ont mal à la tête, un crédit à rembourser, et se demandent, inquiets quand ils reverront leurs enfants. Pas de dispute sur leurs préférences. Ils se contentent de faire avec ce qu'ils ont. Nous sommes les nouveaux anciens. Alors choisis-en un. Choisis n'importe lequel de ces dieux qui regardent la télé tout seul et s'ennuient, mais ignorent ce qui est mieux et ne peut donc pas le désirer. Choisis-en un, regarde encore et tu verras les dieux se lever, au fond des yeux les plus modestes et humains. Maintenant, regarde bien.
Dans un lagon abandonné, le lagon rouge sang, il n'y a plus que des fonds d'écran. Je n'ai nulle part où me barrer, je vais faire la fête en creux. J'ai tellement grincé des dents, je voulais partir et m'échapper dans un lagon abandonné. Le lagon rouge chant, il n'y a plus que des fonds d'écran.
Je n'ai nulle part où me barrer,
je vais faire la fête à en crever. J'ai tellement grincé des dents,
je voulais partir et m'échapper
dans un lagon abandonné.
À part ça, ça va?
Bon, je ne me plains pas.
Tu te sens dans ton état normal?
Je te dis que je me plains pas.
Moi, je me sens un peu drôle. Clove.
Oui?
Tu n'en as pas assez?
Si. De quoi?
De cette chose-là.
Mais depuis toujours. Toi, non?
Alors, il n'y a pas de raison pour que ça change.
Ça peut finir. Toute la vie, les mêmes questions, les mêmes réponses.
Perspective. Dans mes yeux s'ouvre le champ hermétique des graines qui n'ont pas fleuri. Tout rêve d'une fin irréelle et distincte. Le blé fait le rêve d'énormes fleurs jaunes. Tout rêve d'étranges aventures dans l'ombre, de fruits inaccessibles, de vents apprivoisés. Nul ne se connaît. Fourvoyés et aveugles, leurs parfums leur font mal, à jamais prisonniers. Chaque graine imagine un arbre généalogique qui couvre tout le ciel de tiges et de grappes. Dans l'air s'étirent des végétations incroyables, de grandes branches noires et des roses de cendre. La lune presque éteinte de fleurs et de ramures se défend de ses rayons comme un poulpe d'argent. Dans mes yeux s'ouvre le champ hermétique des graines qui n'ont pas fleuri. Perspective. Dans mes yeux s'ouvre le champ hermétique des graines qui n'ont pas fleuri. Toute rêve d'une fin.
Ouais. Tu sais, si j'écris comme j'écris et que je passe tout ce temps en studio le reste, c'est parce que je veux me donner les moyens de toucher mes rêves, tu sais. Je crèverai de me réveiller un matin, de me retourner et dire putain mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie.
Putain mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie.
Putain mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie.
Putain mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie.
Putain mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie.
J'ai autant de violence que de tendresse. Ma veillance n'a d'égal que ma bassesse. Je suis le champ de maladresse. Mes forces s'opposent comme l'ordre bande calabraise. Pour que je me sente à mon aise, fallait que je m'imite bande savonneuse. Mon enfance laisse un malaise. Termine si vite, bien avant graisse de la braise. Trouble à l'impèse. Celui que j'étais, celui que je suis, sans ta confesse. Mais des doutes de sa pèse. Ils sont tout dit, pourtant ils ne sont pas qu'on se connaisse. L'ignorance comme maîtresse. J'ai longtemps cru qu'on existe entre parenthèses, comme on file à l'anglaise. J'ai vécu les yeux sur leurs lèvres, comme les vieux sur leurs rêves, sur les dernières lignes d'une lettre amoureuse. Ce masque qui agresse, cache un manque d'artillesse, immense comme l'Everest. L'indépendance, ma forteresse, pour me défendre contre le reste, au dépend de l'allégresse. On me dit étrange, sans précepte, au détriment de ma jeunesse. Le genre qui plante ses chansons à geste, genre de perdant un presque. Le piment de la jeunesse, alimente la vieillesse, manque aux miennes en l'espèce. Doute et confusion, se liant dans ma tête, le ciment, la détresse. J'avançais sans rien pour personne, vivant d'offense et de prétexte. Peur ou honte d'être ce que je suis, se rendre à l'évidence sans faiblesse. Trop lâche pour ce que les affaires pèsent, j'ai vu que les traces sur ceux qu'on enferme. Reste, entre ces jobs à la pièce, des connes de jeunesse, ces pros dont on se berce. J'ai quitté l'école sans trop me rendre compte, et pour bon nombre, ce sont les mœurs. Trimant sans réserve, j'ai vécu sans raison, niant le sens de mes rêves. C'est dans la pente, quand je cerne, qu'on a qu'une vie, pourquoi le sang dans mes veines. Si peu de volonté m'amène à me croire voué qu'à un destin des peines. Se rendre dans les teintes, tiens qu'à soi, j'ai attendu qu'on vienne tendre les rênes. Ma vie se fait la belle, dans les grandes lignes, inexpérience me laisse amère, la différence est la reine. Je reste une à mon peine, parmi d'autres à mon peine, je porte la croix de ma faiblesse. Le poids de ma vie pièce dans ce cloaque que la vie adresse. Je regarde l'histoire sans ivresse, généré ses perdants, en attendant.
Bonjour Julie.
Hello, petit temps de décalage, de latence. Mais on est là et on arrive et on y va. Du tac au tac, que répond le poète à son fils qui lui dit « Il y a trop d'arabes dans ton quartier et puis c'est sale chez toi ». Que répond le poète quand on le met en demeure de prendre position dans le match Islam vs Coca-Cola ? Que répond le poète quand on lui demande s'il sait faire quelque chose de ses mains parce que ton frère, lui, Que répond le poète à cette femme qui ne lui pose même pas de questions, qui se contente de pleurer? Et le poète ne sait qu'une chose. Il aurait préféré faire souffrir une école primaire tout entière plutôt que cette femme. Plutôt que cette femme-là. Que répond le poète au tatoueur qui vient de lui graver tout un texte sur le bras et qui conclut l'opération d'un... Excusez-moi, je crois que j'ai fait une faute. Que répond le poète quand on lui enjoint d'adopter un chat ou un chien ou un hamster, enfin, n'importe quelle boule de poil sous peine de ne pas être prise au sérieux dans son rôle de poète? Que répond le poète quand vous annotez les pages de son recueil? Que répond le poète quand on le félicite pour les titres de ses textes avant de lui recommander de prêter autant d'attention au reste de ses poèmes? Que répond le poète quand il gagne enfin de l'argent, quand il découvre ce que sont les droits d'auteur après avoir écrit un bon gros roman, un très bon, très gros roman? Que répond le poète quand une sommité lui avoue prendre un plaisir coupable à la lecture de ses textes? Que répond le poète après avoir lu un texte tel que celui-ci?
Une voix parvient à quelqu'un dans le noir. Imaginez. Une voix parvient à quelqu'un sur le dos dans le noir. Le dos, pour ne nommer que lui. Le lui dit est la façon dont change le noir, quand il rouvre les yeux, et encore quand il les referme. Seul peut se vérifier une infime partie de ce qui se dit. Comme par exemple, lorsqu'il entend « Tu es sur le dos dans le noir ». Là, il ne peut qu'admettre ce qui se dit. Mais de loin, la majeure partie de ce qui se dit ne peut se vérifier. Comme par exemple lorsqu'il entend « Tu vis le jour tel et tel jour ». Il arrive que les deux se combinent. Comme par exemple « Tu vis le jour tel et tel jour ». Et maintenant, tu es sur le dos dans le noir. Stratagème peut-être, visant à faire rejaillir sur l'un l'irréfutabilité de l'autre. Voilà donc la proposition. À quelqu'un sur le dos dans le noir, une voix égrène un passé. Question aussi par moments d'un présent et plus rarement d'un avenir. Comme par exemple, tu finiras tel que tu es, et dans un autre noir ou dans le même, un autre. Imaginant le tout pour se tenir compagnie. Vite, motus. L'emploi de la deuxième personne est le fait de la voix. Celui de la troisième, celui de l'autre. Si lui pouvait parler, à qui et de qui parle la voix? Il y aurait une première. Mais il ne le peut pas, il ne le fera pas, tu ne le peux pas et tu ne le feras pas. À part la voix et le faible bruit de ce souffle, nul bruit, du moins qu'il puisse entendre, le faible bruit de son souffle le lui dit. Quoique maintenant, moins que jamais, porté sur les questions, il ne peut parfois que se poser celle de savoir si c'est bien à lui et de lui que parle la voix. Ne surprendrait-il pas une communication destinée à un autre? S'il est seul, sur le dos, dans le noir, pourquoi la voix ne le dit-elle pas? Pourquoi ne dit-elle jamais, par exemple, tu vis le jour tel et tel jour, et maintenant tu es seul sur le dos dans le noir? Pourquoi? Peut-être à seule fin de faire naître, dans son esprit, ce vague sentiment d'incertitude et de gêne.
T'as jamais vu mes yeux?
Non.
Tu n'as jamais eu la curiosité, pendant que je dormais, d'enlever mes lunettes et de regarder mes yeux?
En soulevant les paupières? Non.
Un jour, je te les montrerai. Il paraît qu'ils sont tout blancs. T'as jamais vu mes yeux?
Non.
Tu n'as jamais eu la curiosité, pendant que je dormais, d'enlever mes lunettes et de regarder mes yeux?
En soulevant les paupières? Non.
Un jour, je te les montrerai. Il paraît qu'ils sont tout blancs.
Dans le bois, c'est drôle. Thank you.
Tu es le soleil, ou Vénus, ou la lune, je ne sais. Que veux-tu de ce vagabond fou? Je ne sais. Dans ce palais du sang, pourquoi, tout est douceur et harmonie. Quel désert, quelle prairie, quel palais, je ne sais. Tu es dans une tente, sur la route de la Voie lactée. Autour de toi, des étoiles de toute beauté. Quelle lune es-tu? Je ne sais. Ton visage fait de notre âme un jardin de narcisses, de lys et de pensées. Notre lune tire son éclat de ta lune. Quel compagnon es-tu? Je ne sais. Un océan sans rivage, bonheur, et un cœur rempli de poissons. Jamais je n'ai vu tel océan. Et que sont ces poissons? Je ne sais. La royauté des créatures, légende infime, comme du Chénévis, le roi des rois, l'éternel est le seul roi que je sais. Ô soleil infini, tes parcelles sont parlantes. Je ne sais. Silence, car à force de parler, tu es noyé dans la multiplicité. Tantôt gémissement, tantôt plainte. Tantôt soupir, je ne sais. Un sortilège que j'ai bu m'a rendu ivre, je me tais. Distinguer entre l'ivresse inconsciente de la conscience, je ne sais.
Ton esprit de tout temps peu actif l'est maintenant moins que jamais. C'est là le genre d'assertion qu'il admet volontiers. Tu es né tel et tel jour. et ton esprit de tout temps peu actif l'est maintenant moins que jamais. Il faut cependant, comme contribution à la compagnie, une certaine activité d'esprit, si faible soit-elle. C'est pourquoi la voix ne dit pas « Tu es sur le dos dans le noir » et ton esprit n'a aucune activité d'aucune sorte. La voix, à elle seule, tient compagnie, mais insuffisamment. Son effet sur l'entendeur est un complément nécessaire, ne serait-ce que sous la forme de vagues sentiments d'incertitude et de gêne suspensionnés. Mais, même mis à part la question de compagnie, il est évident qu'un tel effet s'impose. Car s'il devait seulement entendre la voix et qu'elle n'ait pas plus d'effet sur lui, ne ferait-elle pas aussi bien de se taire ? À moins qu'elle ne vise, en tant que bruit, à l'état pur, à mettre au supplice un affamé de silence. Ou évidemment, comme précédemment, conjecturer qu'elle ne soit destinée à un autre.
Dans le bois, décédera de lune. Réflexion. Homme qui va et vient, fuit le fleuve et le vent, ferme les yeux et puis... Puis vendange tes larmes. L'âme tenue à un fil oublie la question, néglige les faucilles de l'interrogation. La question est le lierre qui nous couvre et nous égare. Elle fait tourner sous nos yeux prismes et carrefours. La réponse est la même question déguisée. Elle s'en va comme source et revient en miroir.
Tu ne m'aimes pas ?
Non.
Autrefois, tu m'aimais.
Autrefois.
Je t'ai trop fait souffrir, n'est-ce pas ?
C'est pas ça.
Je ne t'ai pas trop fait souffrir ?
Si.
Ah, quand même. Pardon. J'ai dit pardon.
Je t'entends.
Si tu es l'océan, moi, je suis ton poisson. Et si tu es la plaine, moi, je suis ta gazelle. Souffle en moi. Je suis soumis à ton souffle. Moi, je suis ton hautbois. Ton hautbois. Ton hautbois. Dans l'herbe verte, je hume. Le parfum de ta bouche et je vois ta couleur dans la tulipe rouge. Et si cela n'est pas, alors j'ouvre la bouche et puis je dis ton nom, que je puisse l'entendre. J'ai hurlé et il m'a dit « Je te veux silencieux ». Puis, quand j'ai fait silence, « Je veux tes hurlements ». Je bouillonnais, il dit « Je te voudrais tout calme ». Et puis, quand je fus calme, « Je te veux bouillonnant ». Il y a une désunion semblable à l'union qui est bonheur. Par la mort du corps, s'éclaire la lampe du cœur, du rire de l'éclair. Le nuage se met en pleurs. Et quand le nuage pleure, le jardin se met à rire. Tu n'es ni eau, ni terre, tu es autre, tu voyages. Hors de ce monde d'eau et de boue, le corps est un ruisseau et l'âme en elle, l'eau de la vie. Là où tu es rien de cela, naît. Ô chant de la vielle, d'où viens-tu? Tu es rempli de feu, de troubles et de tumultes. Tu es l'espion des cœurs et messager de ce désert-là. Tout ce que tu dis, c'est le secret du cœur.
Vous êtes bien sur Radio Canu, au 102.2 pour « Comment faut-il que je vous le dise ?» Une émission qui a lieu toutes les deux semaines. Et du coup, je crois que ça a bientôt toutes les vacances, donc on a encore une émission la fois prochaine, et puis après, on vous retrouvera à la rentrée. Mais là, on est encore là.
Et on va continuer avec un peu d'absurdité, briller comme un soleil couchant, de regarder son reflet sur le lagon distordu et créer une zone de flou sur les ondes.
Petit garçon, tu sors de la boucherie charcuterie en tenant la main de ta mère et vous prenez à droite et avancez en silence sur la grande route. Au bout d'une centaine de pas, vous virez vers l'intérieur et entamez la longue montée menant à la maison. Vous progressez en silence dans l'air tiède et calme de l'été. Il est tard dans l'après-midi et au bout d'une centaine de pas, le soleil apparaît, au-dessus. Levant les yeux au ciel d'azur et ensuite au visage de ta mère, tu romps le silence en lui demandant s'il n'est pas en réalité beaucoup plus éloigné qu'il n'en a l'air. Le ciel s'entend. Le ciel d'azur. Ne recevant pas de réponse, tu reformules, mentalement, ta question. Et une centaine de pas plus loin, lève à nouveau les yeux à son visage et lui demande s'il n'a pas l'air beaucoup moins éloigné qu'il ne l'est en réalité. Pour une raison que tu n'as jamais pu t'expliquer, cette question dut l'exaspérer, car elle envoya valser ta petite main et te fit une réponse blessante, inoubliable. Si ce n'est pas à lui que parle la voix, c'est forcément à un autre. Ainsi, avec ce qui lui reste de raison, il raisonne. À un autre, de cet autre, ou de lui, ou d'un autre encore. À un autre, de cet autre, ou de lui, ou d'un autre encore. À quelqu'un sur le dos dans le noir, en tout cas. De quelqu'un sur le dos dans le noir, que ce soit le même ou un autre. Ainsi, avec ce qui lui reste de raison, il raisonne, et raisonne faux. Car si ce n'est pas à lui que parle la voix, mais à un autre, c'est forcément de cet autre qu'elle parle, et non point de lui, ni d'un autre encore, puisqu'elle parle à la deuxième personne. Si ce n'est pas de celui à qui elle parle qu'elle parle, elle ne parlera pas à la deuxième personne, mais à la troisième. Par exemple, il vit le jour tel et tel jour, et maintenant il est sur le dos dans le noir. Il est donc évident que si ce n'est pas à lui que parle la voix, mais à un autre, ce n'est pas de lui non plus, mais de cet autre et de nul autre. Ainsi, avec ce qui lui reste de raison, il raisonne faux. Pour tenir compagnie, il doit faire preuve d'une certaine activité mentale. Mais il n'a pas besoin de briller. On pourrait même avancer que moins il brille, mieux ça vaut. Jusqu'à un certain point. Moins il brille, mieux ça vaut. Mieux il tient compagnie. Jusqu'à un certain point.
Mais tu peux bouger.
Oui.
Alors bouge. Bouge. Où es-tu?
Là.
Où es-tu?
Là.
La France n'existe pas. Jeanne d'Arc est tombée dans le trou au milieu de la table. Elle y a disparu, emportant avec elle nappe et couvert, avant que l'oncle n'ait eu le temps de servir l'apéro. À moi de jouer maintenant. Comment mettre tout cela à ma main? Je cherche avec qui commencer. Avec quelle couronne tomber, ramasser, voler, faire sonner le début du premier épisode? Je crains les génériques trop longs, pleins de prénoms et de chiffres. Je réfléchis à la première bouse de cheval, au premier crottin dans lequel flanquait mon gaulois d'ancêtre. Je subodore le système D requis pour sauver sa peau au Moyen-Âge. Le jeu des chaises musicales reste de toutes les époques, pour ceux qui ont la chance d'avoir des chaises chez eux. Et tous ces artistes officiels qui n'ont pas toujours manqué de génie pour servir leur maître ne m'inspirent qu'une moue polie. Je sais bien que pour finir grand jardinier de Versailles, il vaut mieux naître fils de grand jardinier. J'ai toujours su que les jardiniers étaient des putes et des fils à papa. Au point où j'en suis de ma relecture, je file tout droit aux incontournables. Napoléon pour commencer. Napoléon qui s'auto-proclame empereur, qui s'auto-sacre le saint patron de tous les écrivains, qui s'édite à compte d'auteur. Et pourquoi pas? J'oublie ceux qui l'ont maudit dans toutes les langues, j'oublie les produits dérivés. Les souverains de chaque époque se construisent de chouettes baraques, faute de disposer de Lego. Et bien avant que d'être décapités, se scalpent eux-mêmes en passant par des portes aux linteaux trop bas. Ou se crèvent la foi de trop à la chasse, ou choisissent la mauvaise maîtresse, le mauvais conseiller. Et à Lyon, où je vis, aime et écris, à Lyon, les Canus se sont battus, les Canus ont perdu, et beaucoup de choses qui ont été écrites à leur sujet relèvent de la très mauvaise littérature. À Lyon, des alchimistes qui n'avaient pas tous leur baccalauréat ont fait leur cuisine. Des hommes remarquables ont été poursuivis pour exercice illégal de la médecine, ont servi le Christ et ont parlé avec des esprits. À Lyon, comme partout ailleurs, le sort du monde s'est décidé. dans les années 70 du XXe siècle, un président de la République française pond une anthologie de la poésie française. C'est dire s'il est cocu et malade. Il est tout ce qu'on apprend ni en cours d'histoire, ni en cours de français. La France du XVIIIe, moins bien cartographiée que la Lune à cette époque. Les charges à cheval et le manque cruel d'Indiens, les verts pâturages rougis par les guerres de religion, les hommes moustachus, chevelus, enchapeautés, casqués, emperruqués, fauchant, chevauchant, signant des pactes sous de vilaines croûtes, sous des lustres trop moches comme de vrais mâles Casanova. Devenu maçon à Lyon, qui écrit ses mémoires dans la langue de Poquelin Junior, Stendhal et son épitaphe en italien, Stendhal mort milanais bien que né à Grenoble et enterré à Montmartre. Les stratégies de cour jusqu'au cœur de maintenant, les provinces où continuent de naître des générations pas du tout spontanées de sorcières, tandis qu'Eiffel monte son mécano géant au cœur de la capitale. J'essaye de dessiner tout cela. Il n'est rien de plus difficile à croquer qu'un masque à gaz, à part une charge à cheval, à part des tentes sous la pluie, à part une marche de soldats dans la boue.
La voix lui parvient, tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, tantôt amortie par l'éloignement, tantôt chuchotée à l'oreille. Au cours d'une seule et même phrase, elle peut changer de place et de volume. Ainsi, par exemple, avec netteté, d'au-dessus du visage renversé, tu vis le jour. Un jour et maintenant. Puis, chuchoté à l'oreille, tu es sur le dos dans le noir. Ou évidemment, inversement. Autre trait, ces longs silences, où il ose presque espérer qu'elle a dit son dernier mot. Ainsi, même exemple, avec netteté, d'au-dessus du visage renversé, tu vis le jour. Tu es sur le dos dans le noir. Ou évidemment, inversement. Autre trait, le rabâchage. Éternellement, à peine varié, le même jadis. Comme pour l'amener à toute force, à le faire sien, à avouer. Oui, je me rappelle. Voire peut-être à avoir une voix, à murmurer. Oui, je me rappelle. Quelle contribution à la compagnie ce serait ? Une voix, à la première personne du singulier, murmurant, de loin en loin. Oui, je me rappelle.
Mais tu peux bouger.
Oui.
Alors bouge. Bouge. Où es-tu?
Là.
Où es-tu?
Là.
Coupure, rupture, sensation impure. Il n'y a pas d'échappatoire à cette absence. Saut d'obstacles, rude bavure, dépassement provoquant la déliquescence. Juste avant de défaillir, j'ai hésité à jeter sur le feu l'essence. Agir, se ressaisir, ne pas laisser le coup m'envahir. Je prends possession de la renaissance. Assemblage mêlé d'intuition et d'éloquence pour construire, être dans le lien de confiance. Regarder dans le miroir fleurir. Bleu, lucide, baume au corps. Je parfume de lavande la brume de l'esprit. Adoucir le contre-choc. Choc, 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 choc. Ah ! Des bulles d'air bougent d'un organe à l'autre. Le cœur se déploie, irradie, le ventre vibre. Les genoux se réaxent, les phalanges craquent. La nuque s'étire, le souffle passe ici. De bas en haut, de haut en bas, se répand, diffuse. Nef, re, nef. Ro, nef, ro, nef, ro, nef,
ro, nef, ro, nef, ro, nef, ro. La réduction à l'absurde est une forme de raisonnement logique, utilisée en philosophie ou en science. Le raisonnement par l'absurde, aussi appelé apagogie, peut se dérouler de deux façons différentes. Soit par la démonstration d'une vérité, d'une proposition, en prouvant l'absurdité de la proposition complémentaire ou contraire. Soit, deuxième façon, en montrant la fausseté d'une proposition, en déduisant logiquement d'elle des conséquences dites absurdes, c'est-à-dire contre-intuitives ou illogiques. Aristote, philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, nous parle, dans son recueil appelé « Métaphysique », du principe de non-contradiction. Voici donc un extrait de Poésie métaphysique. Il est cependant possible de démontrer par voie de réfutation, même sur ce point, qu'il est impossible que le même soit et ne soit pas, dès lors que le contradicteur dit seulement quelque chose. Or, s'il ne dit rien, il est ridicule de chercher un argument contre qui n'a d'argument sur rien, en tant qu'il n'en a pas. Car en tant que dès lors il est tel, un tel interlocuteur est semblable à une plante. Je dis qu'il y a une différence entre démontrer par réfutation et démontrer. Parce que celui qui cherche à faire une démonstration aura l'air de faire une pétition de principe. Tandis que si un autre est l'auteur d'une telle pétition de principe, il y aura réfutation et non démonstration. Le principe pour toutes les argumentations de cette sorte n'est pas de réclamer qu'on dise quelque chose est ou n'est pas, car on pourrait peut-être concevoir que c'est faire une pétition de principe, mais qu'on signifie au moins quelque chose pour soi-même ou pour un autre. C'est en effet nécessaire si toutefois on dit quelque chose, car dans le cas contraire, un tel interlocuteur ne produirait d'argument ni pour lui-même, ni pour un autre. Mais si l'on accorde cela, il y aura démonstration, car quelque chose dès lors sera défini. Cependant, le responsable en sera non celui qui cherche à démontrer, mais celui qui soutient l'argumentation, car en détruisant un argument, il soutient un argument qu'il détruit. De plus, celui qui concède cela a concédé qu'il y a quelque chose de vrai sans démonstration. Par conséquent, il n'est pas vrai que tout serait ainsi et non ainsi. Aristote est certes difficile à comprendre dans ce texte qui nous rappelle que la logique est parfois sèche et vide. Pour autant, Aristote est plus rigoureux que le langage utilisé d'ordinaire grâce à ce vocabulaire conceptuel et ce cadre formel. Paradoxalement donc, ce qui serait le plus incompréhensible serait en même temps ce qu'il y a de plus rigoureux. La logique aurait le plus de vérité, mais le moins de sens. D'où l'intimité entre absurdité logique et clarté ordinaire. Et c'est la poésie métaphysique d'Aristote qui nous l'a bien fait entendre.
Oui, elle l'est bien. Ça ira, c'est sûr, me disais-je, tâchant de toutes mes forces de conjurer le pronostic du docteur Miyake. Quand octobre sera venu, quand fleuriront les chrysanthèmes, etc., me disais-je, et sur ce, petit à petit, le sommeil m'a gagné. Il y a un paysage que je n'ai en réalité jamais vu, mais qui, de temps à autre, apparaît dans mes rêves. M'y voilà revenu, ai-je songé. Et je me suis retrouvée au bord d'un lac, dans une forêt pour moi familière. Je marchais d'un pas silencieux, en compagnie d'un jeune homme en kimono. Le paysage tout entier semblait noyé dans un voile de brume verte. Et puis, immergé au fond du lac, il y avait un fragile pont blanc. « Oh !» a dit le jeune homme, « le pont a sombré. Aujourd'hui, on ne peut pas se rendre nulle part. Allons-nous reposer dans cet hôtel. Je crois savoir qu'il y a de la place. » Au bord du lac se trouvait un hôtel tout en pierre. Et les pierres étaient humidifiées par le brouillard verdâtre. Sur le portail, lui aussi en pierre, était gravé en fines lettres dorées. « Hôtel Switzerland ». En lisant les lettres SWI, j'ai soudain pensé à ma mère. Que comptait-elle faire ? Viendrait-elle, elle aussi, dans cet établissement ? Ai-je pensé, tout incrédule ? Et puis, avec le jeune homme, j'ai franchi le portail de pierre et suis entrée dans le jardin de devant. Le jardin était dans la brume et, semblable à des hortensias, de grosses fleurs rouges y étaient épanouies, comme autant de flammes. Du temps de mon enfance, quand je voyais des motifs d'hortensias écarlates sur une housse de futon, je ressentais une étrange tristesse. Mais là, je constatais qu'en effet, les hortensias rouges, cela existait vraiment. Vous n'avez pas froid ? Rien qu'un peu. J'ai les oreilles humides de brouillard. Et c'est derrière les oreilles que j'ai froid, et je dis en riant. Et ma mère, que compte-elle faire ? À cette question, le garçon a répondu, avec un sourire à la fois triste et affectueux. Elle est dans sa tombe. Ah ! Ai-je lâché en un petit cri. Oui, c'était cela. Ma mère n'était plus là. Et ses funérailles avaient eu lieu il y a déjà longtemps. Ayant pris conscience de la disparition de ma mère, j'ai été envahie par un indicible sentiment d'abandon qui me faisait trembler de tout mon corps. et je me suis éveillée. La véranda prenait déjà des teintes crépusculaires. Il pleuvait. Une mélancolie verdâtre, tout comme dans mon rêve, flottait partout. « Mère !» ai-je appelé. D'une voix douce, elle m'a répondu. « Qu'est-ce que tu fais ?» Joyeuse, je me suis levée d'un bond et je suis allée dans le salon. Vous savez quoi ? Je m'étais endormie. « Ah bon ?» Je me demandais ce que tu étais en train de faire. C'était une longue sieste. Apparemment amusée, elle s'est mise à rire. Que ma mère, avec une telle grâce, fut toujours bien vivante. Cela me donnait tant de joie que, reconnaissante, j'avais les larmes aux yeux. Et pour le dîner, que faut-il à madame ? Que souhaiterait-elle ? Ai-je dit sur un ton vif. Ne prépare rien. Je n'ai besoin de rien. Aujourd'hui, ma fièvre est montée jusqu'à 39,5. Brusque retour sur terre. Me sentant écrasée, promenant un regard hébété aux quatre coins de la pièce sombre, j'ai éprouvé une soudaine envie de mourir. Mais comment est-ce possible ? 39,5 ! Oh, ce n'est rien. Seulement, je n'aime pas sentir arriver un accès de fièvre. Juste avant, je commence à avoir mal à la tête et à frissonner. À présent, dehors il faisait noir. La pluie semblait avoir cessé, mais le vent soufflait. J'ai allumé, et comme j'allais prendre le chemin de la cuisine, ma mère m'a dit « La lumière est trop violente. Éteins. » « Mais vous n'aimez pas rester étendue dans le noir ?» lui ai-je dit, suspendant le pas. « Comme je ferme les yeux pour dormir, » m'a-t-elle répondu, « c'est la même chose. Rester dans le noir ne m'attriste pas le moins du monde. Par contre, je déteste être éblouie. Désormais, dans le salon, n'allume plus jamais la lumière, s'il te plaît. » Cette réponse m'a donné un funeste pressentiment. Sans rien dire, j'ai éteint. Je suis passée dans la pièce voisine dont j'ai allumé la lampe. Et en proie à un intolérable chagrin, j'ai vite gagné à la cuisine. J'ai sorti du saumon en conserve que j'ai disposé sur du riz blanc froid. Et pendant que je mangeais, un torrent de larmes a jailli de mes yeux. Dans la nuit, le vent a redoublé de violence. Et à partir de 9h environ, la pluie est revenue se mêler au vent. Une vraie tempête. Les stores du couloir extérieur que j'avais enroulé 2 ou 3 jours plus tôt battaient bruyamment. Clac, 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 clac. Et moi, dans la pièce jouxtant le salon, en proie à une curieuse excitation, je suis restée à lire l'introduction à l'économie politique de Rosa Luxembourg. C'est un ouvrage que j'étais allée prendre quelques jours plus tôt dans la chambre de Naoji, à l'étage. J'avais aussi pris, sans rien lui demander, des textes choisis de Lénine et de la Révolution sociale de Kautsky. Et j'avais tout posé sur mon bureau. Si bien qu'un matin, ma mère, après avoir fait sa toilette, passant à proximité de mon bureau, avait eu, par hasard, le regard attiré par ces 3 livres. L'un après l'autre, elle les avait pris et observés. Puis, avec un léger soupir, elle les avait doucement reposés et m'avait adressé un coup d'œil mélancolique. Son regard était empli d'une profonde tristesse, mais n'exprimait ni le refus ni le dégoût. Ce qu'elle lit, elle, c'est Hugo, Dumas, père et fils, Musset, Daudet, etc. Mais je sais que dans ces récits suaves, il y a un parfum de révolution. Les personnes comme ma mère, chez qui la culture est un don du ciel, même si l'expression est bizarre, les personnes qui ont cela en elles sont peut-être en mesure d'accueillir une révolution comme un événement qui, loin de les surprendre, leur paraîtrait tout à fait normal. Ainsi moi-même, dans le fait de lire, par exemple, Rosa Luxembourg, je reconnais qu'il y a en moi une certaine affectation. Mais malgré tout, je me passionne à ma manière pour cette lecture. Dans ce livre, il est question d'économie. Et si on le lit comme un traité d'économie, on trouve cela parfaitement ennuyeux. Ce n'est en fait qu'un tissu de platitudes et d'évidences. À moins que je ne comprenne strictement rien à l'économie, ce qui est peut-être le cas. En tout état de cause, cela ne m'intéresse pas le moins du monde. Les hommes sont mesquins et le seront éternellement. Tel est le présupposé sur lequel repose toute cette science. Mais pour les personnes sans mesquinerie, toutes ces questions, comme la redistribution des richesses, etc., ne présente absolument aucun intérêt. Pourtant, à la lecture de ce livre, il y a autre chose qui, curieusement, me passionne. C'est l'intrépidité frénétique avec laquelle l'auteur, sans hésiter, s'en va déduire de fond en comble les vieilles idées établies. Il y a même une image qui me vint en tête, celle de l'épouse qui, faisant fi de toute leçon de morale, se précipite parfaitement sereine auprès de celui qu'elle aime. Pensée destructrice. La destruction est chose pitoyable et tragique. Mais aussi, c'est une belle chose. Le rêve de détruire, de reconstruire et d'achever. Et puis, une fois la destruction advenue, il se peut que le jour de l'accomplissement ne vienne jamais. Et pourtant, au nom de l'amour rêvé, il faut détruire. Il faut déclencher la révolution. Rosa, de façon tragique, a donné son amour sans partage au marxisme. Voici ce qui s'est passé il y a 12 ans en hiver. Toi, tu es comme la petite fille du journal de Sarachina. Désormais, ça ne sert à rien de te dire quoi que ce soit. Et sur ces mots, mon ami me quitta. Je venais alors de lui rendre un livre de Lénine sans l'avoir lu. Est-ce que tu l'as lu ? Non, j'en suis désolée. Nous étions sur le pont d'où l'on voyait l'église Saint-Nicolas. Et pourquoi ? Dis-moi pourquoi. Cet ami avait quelques centimètres de plus que moi. Elle excellait dans les langues étrangères. Son béret rouge lui allait à merveille. Et avec son visage, que l'on comparait à celui de la Joconde, c'était une vraie beauté. La couleur de la couverture ne me plaisait pas. Quelle drôle de fille tu fais. Tu plaisantes. La vérité, c'est que je te fais peur, non ? Non, tu ne me fais pas peur. Je ne supportais pas la couleur de la couverture. C'est tout. Ah bon ? Me répondit-elle tristement. Et c'est alors qu'elle me compara au personnage du journal de Sarachina, pour conclure qu'il ne servait plus à rien de me parler. Nous restâmes toutes deux silencieuses un long moment, les yeux baissés sur la rivière hivernale. Adieu. Si cela est une séparation éternelle, pour jamais, adieu. C'est de Byron, me dit-elle. Et très vite, elle récita le texte original et m'étreignit légèrement. Tout à ma honte, je murmurai une excuse. Pardon. Puis je me dirigeai vers la gare d'Oshano-Mizu et me retournai. Elle était là, oui, debout, sur le pont, immobile. Elle me regardait fixement. À la suite de cela, je ne l'ai plus jamais revue. Nous avions le même professeur étranger, chez qui nous nous rendions régulièrement, mais nous n'étions pas dans la même école. Depuis lors, 12 ans se sont écoulés, et je constate qu'en effet, par rapport au personnage du journal de Sarachina, je n'ai pas progressé d'un pas. Qu'ai-je donc fait de tout ce temps ? La révolution, je n'y ai jamais rêvé. Je n'ai même pas été amoureuse. Jusqu'à présent, dans notre monde, nos aînés nous avaient enseigné que la révolution et l'amour étaient les deux choses les plus folles et les plus abyssables qui existent. Avant la guerre et pendant la guerre, nous étions convaincus que c'était vrai. Mais depuis la défaite, nous avons perdu toute confiance envers ces aînés. Nous en sommes venus à nous demander si en toute chose, vivre dans le vrai, suivre le bon chemin, ce n'était pas prendre le contre-pied de leur enseignement. Une idée a germé en nous. La révolution et l'amour, c'est en fait ce qu'il y a de meilleur au monde. C'est si exquis et si merveilleux que par malveillance, nos aînés nous ont enseigné mensongèrement que ce n'était là que des raisins verts. Je veux m'accrocher à cette conviction. C'est pour l'amour et pour la révolution que l'homme est sur cette terre. Voici que la cloison a coulissé et que le visage souriant de ma mère est apparu. Tu es encore éveillée ? Tu n'as pas sommeil ? M'a-t-elle demandé. J'ai regardé la montre sur mon bureau. Il était minuit. Non, je n'ai pas du tout sommeil. C'est la lecture de ce livre sur le socialisme qui m'a excitée. Ah bon ? Tu n'as pas d'alcool ? Dans un moment comme ça, quand on boit avant de se coucher, on dort bien. Son ton semblait taquin. Mais dans son attitude, il y avait, comment dire, une coquetterie confinant à la décadence.
Bonsoir. Bonsoir à ceux qui nous écoutent et à ceux qui ne nous écoutent pas. On n'est pas vaches. Quelques textes couchés sur un carnet et qui parlent d'ailleurs. Valparaiso. J'avais rêvé d'une vie d'ici, Chili. J'avais rêvé d'une vie d'en haut, Valparaiso. D'ici, je ne vois que le ciel gris. Tout est si loin. Je ne me rappelle de rien. Paris. Comment rester et respirer si tout est si étriqué ? Au loin, les nuages se rapprochent. Le ciel se noircit. J'avais rêvé d'une vue d'ici, Chili. Rêvé d'aéroports et d'interludes, le sud. J'ai trié les photos de voyage, je n'ai gardé que les paysages, encorage. Le ciel est si petit, au format carte postale, je me souviens, sur le lac, les éclaircies. J'avais rêvé d'une vue d'ici, Chili. Ne plus rien entendre d'autre que les oiseaux, j'avais rêvé d'une vue d'en haut, Santiago. Si tu restes, je reste, on reste ici, parmi ceux qui n'écoutent pas les si. Au bord du fleuve, au bord de l'eau, Amazonie. Le chemin. Les nuages transpercés par le soleil, ses rayons, Le ciel se drape dans ses plus belles guenilles, ses haillons. Ce soir, il rejoint la terre pour regarder les hommes en face sur la ligne d'horizon. Ce soir, le ciel rejoint la mer. Il s'ouvrira et laissera place à d'autres doutes, d'autres questions, ralentis par le sable, une autre voie, une autre trace. Les hommes suivront. Parasol. L'horizon est dégagé. Au loin, quelques nuages. Le bois des dalles par le soleil réchauffé. Envie de rejoindre l'autre rive, à la nage. Une ombre se dessine à mes côtés, celle d'une voile. Par le vent tendu et tiré, l'horizon est dégagé. Envie de conjuguer au futur, rajouter des détours et tourner la page, j'envisage. Le retour. Tourner le dos à la plage, au va-et-vient des vagues, traverser les frontières, au-dessus des nuages, de retour sur terre, les clés dans la serrure, retour à la réalité, interrupteur, lumière. Je me suis approché de la mer, à l'ombre des palmiers, les embruns, le va-et-vient des vagues, entouré. Je me suis approché de la mer, l'horizon dégagé, derrière moi la promenade et les touristes de passage, oubliés.
C'est pas l'évidence, non.
C'est pas la divagation.
Oui, mais pas mal à l'aise non plus. Devant le bout de bois,
pas l'évidence.
La flaque.
Quand la nature.
Pas à l'aise.
Pas le malaise. C'est une nouvelle gymnastique des yeux.
Devant le bout de bois, des mains,
la flaque. Quand la nature est là.
Qui est nouvelle gymnastique des yeux.
Enfin, c'est pas lisse. Des mains pour se tenir.
Du pas déséquilibré.
C'est pas lisse.
Mais
je suis pure. Moi aussi.
Échec de la fille avec son canoë.
C'est l'échec de la fille, tu sais, qu'on a vu avec
oui, parce
canoë.
Qu'il s'est retourné. Et puis elle, en fait, elle aimerait bien,
en fait, elle aimerait bien l'échapper nature, le type de la location. Le type de la location.
Je suis purifiée aussi. Je suis purifiée. Dégueulasse, ces immeubles neufs devant la rivière. Dégueulasse, ouais, cette vue.
Ça marche, parce que si on leur tourne le dos.
Ces immeubles neufs, là, devant la rivière.
Si on regarde de ce côté, ouais, mais ça marche, en fait. Parce que
tu leur tournes le dos, et puis hop, comme ça, on regarde ce côté, puis on les voit pas.
Ça va.
Non ?
Il y a des mots qui commencent par pur.
Il y a des mots qui commencent par pur.
Oh, rat, Dieu du soleil,
je suis un peu perdue.
Mais qu'est-ce que tu fous là ?
Est-ce qu'il y a des mots de
là ?
Aura.
Parce qu'il y a les fourmis du soleil qui travaillent, le couteau vol. Qui vole.
Qu'est-ce que tu fous là ?
Reste là, là, là.
Les fourmis travaillent.
Hein. P-U-R.
Pouvoir urgent révolutionnaire.
Sinon, il y a purulent ou révolutionnaire. Enfin, ça, c'est comme
sinon, il y a purulent ou il y a puritain aussi. Alors, faut choisir.
Moi, je me suis perdue.
Ça a été trop vite. Mais tu peux mieux.
Et voilà, une heure vient de s'écouler. Alors, les textes, les morceaux de musique, c'est comme les puzzles. Des fois, c'est bien quand tout est assemblé dans l'ordre. Et d'autres fois, c'est joli aussi quand c'est tout en tas et en vrac et on fait comme on veut. Donc aujourd'hui, il y avait dans les amis de Canu qui ont eu leur voix mais qui n'étaient pas parmi nous, Greg et Anita. Et oui, à qui on...
Voilà, on m'entend voilà. Pas encore une fois parce qu'en technique, c'est n'importe quoi. Oui, donc il y a bien Greg et Julie. Et Anita. C'est l'absurdité.
Absurdité.
Jusqu'au bout.
Laissez-nous un peu penser.
Donc Delphine nous rajoute une petite chanson. Ouais, mais bon, aussi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui?
Moi, j'ai fabriqué... Qu'est-ce que j'ai fabriqué aujourd'hui? J'ai nettoyé des valises, j'ai nettoyé des valises. Et si j'ai fait un petit peu de couture, tout ça, voilà.
Et dans les textes, c'est... autrement?
Ah oui.
Oui, qu'est-ce que t'as mangé, le menu? C'était
ça
bon,
prend une tournure personnelle.
Qu'est-ce qu'il me raconte?
Et ben moi j'ai travaillé sur Beckett qui travaille complètement de façon absurde sur le sur l'absurdité.
Et mais il aime donc, bien les valises aussi, donc c'est très bien.
Il aime bien dans une valise,
avec un chat en arbre à côté et puis des gens qui sont autour.
Voilà. Et heureusement on a quelqu'un qui est capable de nous définir l'absurdité avec de très jolis mots.
C'était merci, Aristote.
Aristote.
Donc nous avons Aristote parmi nous ce soir dans les invités, mais pas que. On a eu donc trois invités pour nous soutenir dans cette absurdité. Je vous laisse du coup vous présenter, parler de vos textes brièvement ou avec un petit peu plus.
On va commencer par Aristote peut-être, non ?
Ben moi je m'appelle Aristote. Je suis né en 456 avant Jésus-Christ. Je suis l'élève principal de Platon. Et j'ai écrit plusieurs livres. Non, pas de livres. En fait, c'était surtout des cours qui ont été retranscrits, notamment sous le nom de métaphysique ou de organon. Ça veut dire logique.
Et on parle beaucoup de toi aujourd'hui parce que c'est le bac de philo. Donc tu es un peu l'homme du jour.
Et il a même pas demandé d'effraiement en plus pour venir, donc merci beaucoup.
Parce qu'il vient de loin quand même.
Ouais, parce que là, c'est vraiment super. Radio Libre.
Alors, moi j'ai cité un extrait d'un texte de Dazai Osamu, donc japonais, comme son nom l'indique, un extrait de Soleil couchant. Et Dazai Osamu est un des, on va dire, une des figures littéraires du XXe siècle les plus importantes et les plus connues par les Japonais, entre autres parce qu'il était passionné par le suicide, mais surtout parce qu'il était membre du groupe Buraya, très, on va dire, très porté sur l'absurdité, justement, sur un ton très ironique. Il était très connu pour sa fantaisie, et, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans ses écrits. Et donc voilà, je vous ai cité un petit texte, une partie d'un texte que j'aime beaucoup, parce que j'ai été invitée par mon homonyme Julie. Et donc, on ne va pas en dire plus, parce que de Julie, ça suffit.
J'ai aussi été invité par Julie, donc ça, c'est le point commun. Je suis à Seine. Ce que j'ai lu, ce sont des textes personnels. Peut-être pas en rapport avec le thème de ce soir, mais bon, c'est une thématique libre. Donc, l'idée, c'était d'aller ailleurs. Donc voilà, quelques textes qui j'espère, donnent envie de partir.
Merci beaucoup.
Et pour ma part, justement, avant de partir se quitter, donc moi j'ai lu un texte perso, Coupure, et deux auteurs différents. Un Frédéric Houder, qui est un Lyonnais, donc peut-être qu'il a entendu ses propres textes et qu'il doit être bizarrement surpris d'avoir une lecture comme ça, non autorisée. Mais c'est pour lui rendre hommage parce que je l'aime bien. No Parking, No Business, donc de Frédéric Houder. Et autrement, pour parler de l'amour, des sentiments, de plaisir, du paysage et de la vie. Rumi, la religion de l'amour. Dans les morceaux de musique, on a entendu une reprise du
Lagon Rouchant, fait par Anita et moi-même.
En attendant de Chien de paille et Donde Estas Maria de Meridian Brothers. Pour nous quitter en dernier, juste après vous avoir dit un petit au revoir, ce sera
Général.
Bill Wilma War de Cher.
C'est ça. Allez, bisous. À bientôt.
À la prochaine.
Au revoir. Absurdité. C'est top.
T'es sûr ?
Sûr.
Absurdité.
Comment faut-il que je vous le dise ?
Mais comment faut-il que je vous le dise ?
the corner smiling, neon tongue, the jaws so quick and easy. A dozen hanging fizzes through my cold and dragon bleeding. She goes sideways, he say no, no. She put the trigger down, he let the mob blow. She give it all away, she let the no, no. She put the pedal down, she gotta lose control.
Et le village disparaissait complètement sous les flots. Et c'est ainsi que nul marin, même au bout d'une longue vue, n'avait jamais aperçu le village, ni même soupçonné son existence. L'enfant se croyait la seule petite fille au monde. Savait-elle seulement qu'elle était une petite fille? Elle n'était pas très jolie à cause de ses dents un peu écartées, de son nez un peu trop retroussé, mais elle avait la peau très blanche, avec quelques taches de douceur, je veux dire, de rousseur. Et sa petite personne commandée par des yeux gris modestes.